Donc, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui devait être présenté initialement par Michel Bonnemain. Bon, vous savez qu'il est en santé très fragile et quand je suis allée le voir à plusieurs reprises, mais en particulier en juillet, il m'avait demandé si je pouvais le remplacer pour présenter ce livre. À vrai dire, ce livre, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais quand même Jacques Toubon en tant que ministre. Mais en tant qu'écrivain les opinions qu'il a présentées dans ce livre m'ont heureusement surprise. Tout à fait. Et je vais faire une petite rectification par rapport au titre. C'est pas « je vais vous dire », c'est « je dois vous dire ». Nos droits sont en danger. Alors, je pense que la nuance est importante parce que j'ai senti, sans vouloir être philosophe, mais dire que quand même il y a une sorte d'impératif moral de la part de Jacques Toubon suite à son expérience de défenseur des droits. Ce défenseur, son expérience de défenseur de droit l'a profondément marqué et je pense que ça a influé ses opinions de manière très importante. Alors, vous savez comme moi, certainement mieux que moi d'ailleurs, qu'il a été député, maire du 13e arrondissement, qu'il a été ministre de la Culture, qu'il a été garde des Sceaux. Et il a aussi présidé le conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. J'en parlerai un petit peu plus loin, parce que je dirais que j'ai eu le plaisir de visiter cette cité début février. Elle est absolument formidable. Et donc, il a terminé sa carrière comme défenseur des droits de 2014 à 2020. Donc, comme je vous ai dit, ou comme Monique vous a dit dans le résumé, je ne vais pas lire in extenso mon document, je vais le lire à certains moments. On va faire une interruption peut-être après le grand 2, hein, vous laissant débattre sur les deux premiers chapitres. Les trois autres sont intéressants. Il y en a un pour lequel j'ai déjà parlé, c'était l'immigration. C'est pas un sujet très nouveau, donc j'insisterai pas parce que d'une part, on l'a vu l'an passé, et puis je vais revenir dessus lors d'une prochaine conférence. Voilà. Alors, donc, dans l'introduction, qui est assez longue, hein, il a fait une grande introduction dans son livre. C'est un livre qui n'est pas très important. J'ai oublié de l'amener, je suis désolée. Mais je vous le présenterai une autre fois. Donc, son expérience de défenseur des droits et surtout des réflexions qu'il en a tirées. Hein. Et cette mission l'a vraiment préoccupé sur l'évolution préoccupante de nos démocraties et des états de droit, hein, et en particulier la nôtre, la France. Et pour lui, jamais les valeurs universelles n'ont aussi autant été contestées que depuis que la Révolution française, etc. Alors, on a une longue histoire d'émancipation des droits. D'ailleurs, je fais référence aujourd'hui à ce qui se passe au Congrès de Versailles. Hein, j'ai écouté tout à l'heure le discours du Premier ministre, qui était très intéressant. Voilà. Et donc, quand on repart de la Révolution française, donc déjà évolution des droits, pas pour les femmes d'ailleurs à l'époque. Il y a le droit révolutionnaire qui a été ensuite achevé ou complété par Napoléon. Donc, quand même, ça a mis en place tout le socle de liberté, d'égalité et de fraternité. D'ailleurs, sur le terme fraternité, on pourra revenir en conclusion. Et nous nous appuyons aussi dans le préambule de la Constitution de 1946. Alors, la France a été un modèle. Est-ce que nous sommes encore un modèle? Donc, au 19e siècle, on a vu le suffrage universel, pas pour les femmes encore. Le droit syndical, les libertés communales, le droit d'association, l'école obligatoire, la liberté de culte, la séparation de l'Église et de l'État. Alors ensuite, les pays européens en réaction à la guerre ont été marquées par l'instauration donc, de la sécurité de la protection sociale globalement au niveau de l'Europe, la concrétisation internationale du droit d'asile, et on verra comment il est mis en cause encore actuellement. Il y a eu la mise en place de l'ONU, et qui a été appuyée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, en Europe, a été mise en place la Convention européenne des droits de l'homme, et parallèlement, ou juste après, en 1957, la construction de la CE. Alors, on a, dans les différents pays européens, on a quand même applaudi à la fin de la décolonisation, à l'avènement des nouvelles démocraties, à la chute du mur de Berlin en 1989. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu que le mur de Berlin, il y a eu la Roumanie chez Ceausescu et tout ce qui a pu exister à cette époque. Voilà. Alors, maintenant, les lois que nous avons se basent sur le socle de la Constitution de 1958, sur le préambule de la Constitution de 1946, sur la charte, je rajoute là, sur la charte de l'environnement qui a été rajoutée à la Constitution en 2008.
Dans la révision de 2008.
Voilà. Alors, maintenant, pour Jacques Toubon, nous sommes rentrés dans une ère de remise en cause des droits fondamentaux et une sorte de rejet de l'égale dignité des hommes sous l'emprise de l'identitarisme. Même le droit d'asile, qui avait été réaffirmé constitutionnellement, ne semble plus du tout évident, même dans la population française. Alors, même ailleurs dans le monde, puisqu'il semble pour Jacques Toubon que le tournant s'est fait suite au 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une sorte de renoncement aux libertés. Tout le monde s'est cru à l'abri en se mettant sous une carapace. Hein, et ça s'est accompagné un peu partout dans le monde, y compris dans les pays dits démocratiques, d'une poussée de mouvements populistes. Hein, sans équivalent depuis les années 1920-1930. Alors, ce qui n'arrange rien, c'est les réseaux sociaux, les médias classiques, ça je vous apprends rien, hein, j'enfonce quelque chose d'évident, hein, et il semble que le racisme gagne énormément de terrain. Hein. Les partis qui pratiquent la tolérance s'imposent un petit peu partout en Europe. Et les nouvelles technologies numériques, je ne parlerai que de Google en particulier, mais pas seulement, hein, ont pris le chemin du monopole, et puis certaines autres sources, je ne vais pas faire l'apologie ni citer des noms, mais donc ils font des profits absolument extraordinaires, et puis sont des outils de manipulation qui banalisent pour beaucoup la haine et l'intolérance. Donc ça, c'était l'introduction. Alors, dans le chapitre 1, Jacques Toubon parle du crépuscule de l'état de droit. Alors, ce qui est quand même assez impressionnant, moi ça me terrifie personnellement, donc je mets de temps en temps mon petit point de vue à côté, mais c'est sûr, l'essentiel est quand même de Jacques Toubon, c'est que le nombre de régimes autoritaires a dépassé le nombre des pays qui vont vers le plus de démocratie. Je ne dis pas les pays démocratiques, les pays qui vont vers un peu plus de démocratie. C'est ça qui est... Voilà. Alors, il prend différents exemples. Il se base d'abord sur l'Europe. Alors, les cas, les exemples qu'il prend, ils ont été écrits en 2022. Donc, c'est quelque part, il y a des événements nouveaux qui ont eu lieu en Pologne et ailleurs. Donc, c'est plus tout à fait à jour. Enfin, je résume son livre. Alors, il y avait la Commission européenne en 2021 a fait un rapport concernant l'état de droit en Europe. Et pour cette commission, il y a des tensions de plus en plus fortes dans l'Europe. C'est-à-dire que l'indépendance des médias, la sécurité des journalistes recule un petit peu partout, notamment par exemple en Pologne, en Hongrie et dans nombre de pays du bloc soviétique. Et ces pays, alors même si ce n'est plus tout à fait le cas en Pologne, avec les dernières élections, elles tentent de contester la primauté du droit européen. J'oserais ajouter pour ma part qu'il y a même en France des gens qui osent contester la primauté du droit européen. Ça, c'est ma petite note supplémentaire. Pas partout, mais un certain nombre de
gens. Non,
certains.
Certains,
y compris en France.
Alors, c'est pas nouveau. L'exemple du cas polonais, je vais peut-être le passer, puisque avec les nouvelles élections, ça va un petit peu mieux. N'empêche que le droit des femmes et autres, on en parlait, d'ailleurs le Premier ministre en parlait dans son discours tout à l'heure, le droit des femmes n'est pas tout à fait au point encore en Pologne. Bon, c'est pas tout à fait l'objet d'aujourd'hui, mais vous pourrez peut-être le réécouter. Alors, dans le monde, c'est pareil, Donald Trump pour lui et Bolsonaro, bon, Bolsonaro n'est plus présent, mais il l'a été, pour lui, ce ne sont pas du tout des accidents électoraux et parlementaires, c'est vraiment une tendance de fond dans le monde, hein. Et il y a une sorte de, quelque chose qui est important, de faillite de la raison. Que ce soit aux États-Unis avec l'assaut du Capitole, Trump, etc. Et donc il y a une certaine promotion du populisme néoconservateur, voire carrément réactionnaire. Alors maintenant il s'intéresse à la France. Alors il a parlé d'abord, il dit que le droit est fragilisé en France. C'est fragilisé. Ça a été fragilisé notamment dans les états d'urgence. Alors pour lui, quand ils sont temporaires, ils préservent l'état de droit. Mais il y a eu une loi en octobre 2017 qui s'appelle Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme qui ont été transposées dans le droit ordinaire qui venait de l'état d'urgence. Hein. Donc c'est la possibilité pour le préfet de fermer, là je lis, hein, parce que je ne connais pas tout par cœur, la possibilité pour le préfet de fermer les lieux de culte, de décider de surveiller des individus suspects, des dispositions relatives aux perquisitions administratives et aux assignations à résidence qui sont en forte augmentation, notamment vous avez des centres de rétention administrative qui sont construits, qui sont en train d'être construits à Dijon ou je ne sais où encore en France. Donc on assiste quelque part à une victoire de l'opinion. C'est comme si c'est l'opinion qui devait gérer notre sécurité. Et on a une logique de suspicion systématique et ça neutralise la présomption d'innocence. Et pour Jacques Toubon, l'antiterrorisme ne devrait pas être la seule doctrine en matière de sécurité. Alors, il y a eu des propositions de loi ensuite qui présentent qui ont voulu remettre en cause la liberté de manifester. Je vous rappelle, au niveau, ça s'est passé au moment des Gilets jaunes. Hein. Mais par contre, le Conseil constitutionnel a annulé l'article concerné, mais a quand même autorisé un certain nombre de contrôles. Et la liberté de manifester a été durcie en 2019. Voilà, en créant des contraventions pour des... Voilà. Alors, ce que dit Jacques Toubon, hein, je ne fais que répéter là les propos de Jacques Toubon. Jacques Toubon ajoute que l'état d'urgence tend à créer un déséquilibre entre l'exigence de sécurité d'un côté, hein, et puis la garantie des droits et des libertés de l'autre. Donc il y a histoire de dans quel sens on va, va-t-on vers plus de sécurité, va-t-on vers moins voilà, de droits et de libertés. Alors, pourtant, il dit, heureusement, l'état de droit est sauvegardé. Parce que l'état d'urgence n'a pas été inscrit dans la Constitution comme il y avait un projet de loi en 2016. Donc, quelque part, ouf. Et ça a été permis parce qu'il y a eu davantage de droits, de garanties de droits individuels. Et c'est là que lui, Jacques Toubon, en tant que défenseur des droits, a énormément œuvré pour que ça ne nuise pas aux libertés fondamentales. Bon, il y a eu aussi des outils de juridiction administrative à disposition du juge qui ont été décisifs, notamment avec le référé liberté, pour remédier aux mesures apparemment excessives qu'il a pu avoir. Et donc, pour Jacques Toubon, le contrôle du juge rattache donc l'état d'urgence à l'état de droit. Mais, dit-il, jusqu'à quand ? Et rajoute, c'est lui qui parle, la vigueur de l'état de droit garantit la force de la démocratie, son recul prépare son déclin. Moi, j'ajouterais une petite remarque personnelle concernant ce qui s'est passé avec la loi immigration, concernant le retoquage, par le Conseil constitutionnel. Il y a certains partis politiques qui ont crié à U et à Dia quand le Conseil constitutionnel a voulu, a choisi de retoquer certains articles, etc., en disant que c'était un excès de la justice par rapport à l'État. Enfin,
voilà. Ça, c'est une vieille ancienne, c'est le gouvernement des juges, quoi.
Voilà, ouais. Voilà. Mmh. Voilà. Alors, dans la suite de son livre, dans la suite de son livre, alors là, je ne vais pas vous faire le détail de son action, parce qu'il détaille en long et en large ce qu'il a fait en tant que défenseur des droits. Son but, c'était vraiment de garantir et de rétablir l'égalité, la dignité, sans faire appel aux procédures contentieuses. C'est surtout ça, sans faire appel aux procédures contentieuses. On n'a pas besoin d'encombrer la justice de toutes sortes de choses qui peuvent donc être résolues par le défenseur des droits. Je vais aborder la deuxième
même
partie.
Les députés.
Pardon ?
Même les députés ont le droit d'aller voir ce qui se passe.
Alors, le deuxième parti, je m'arrêterai après le grand 2, puis après je vous laisserai débattre, et puis ensuite je reprendrai après coup. Alors, pour Jacques Toubon, je crois qu'on a déjà abordé cet aspect-là, à d'autres aspects dans l'éthique et société, c'est la tyrannie de l'identité, le grand 2. C'est-à-dire que pendant des siècles, on a cru que le bien commun, l'intérêt général, devait gouverner les décisions et les comportements. Pour lui, il n'en est plus ainsi. De plus en plus, les identités, les classes, les communautés dictent leurs lois. Les temps actuels sont au repli sur soi et à l'agressivité de tout ce qui est étranger. Les personnalités politiques s'expriment au nom d'une identité exclusive des autres partis. Il n'est plus du tout douteux ni antidémocratique de penser les relations dans un cadre identitaire et discriminatoire. On bafoue ainsi l'universalisme, qui est pourtant le gage de la démocratie. Plus grave encore, les succès récents du populisme et de la démagogie sont fondés, il n'y a pas de E à fonder, le plus souvent sur des fake news, on l'avait déjà évoqué ça, et des théories du complot. Alors, quelles sont les raisons ? Pour Jacques Toubon, il y a plusieurs raisons. Pour lui, déjà, c'est l'angoisse de la mondialisation, dans laquelle l'homme, la femme, l'être humain se sent perdu. Il y a une sorte de révolte des populations au nom du local. Alors, je ne dis pas que c'est négatif ou pas, on constate. Et au nom de l'exception culturelle et socio-économique. Et ce qui est On le sent très fort dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne est tiraillée entre le respect des peuples, enfin les valeurs que l'Union européenne veut défendre, et cette tension vers un libéralisme plus large, quoi. Alors, il y a également un ressentiment social aussi qui explique un peu cette tyrannie de l'identité. C'est une traduction du ressentiment identitaire. On peut parler par exemple des mouvements anti-vax, anti-pass, qui illustrent pour Jacques Toubon des réflexes de peur face à des décisions qui paraissent bureaucratiques, largement au-dessus d'eux. Et ça a été, vous le savez, très bien entretenu par les réseaux sociaux. Oui. Il y a aussi des discriminations vécues réelles par certaines populations, en particulier les jeunes, les étrangers, les Noirs, les personnes d'origine maghrébine. Et puis, il semble pour Jacques Toubon que les partis nationalistes profitent de cette augmentation des inégalités. Le problème, c'est que l'État n'impose plus au marché le respect des normes sociales et politiques qui devraient être le socle de l'Union européenne. Alors, par ailleurs, un autre aspect de la tyrannie de l'identité, c'est l'exhibition de l'identité nationale. Donc on voit partout, un petit peu partout dans le monde, une exacerbation des nationalités et des identités. Alors, que ce soit en Inde, je prends l'exemple de l'Inde, entre les conflits hindous-musulmans, au Brésil, où c'est peut-être moins vrai actuellement, mais avec Bolsonaro, avec l'autoritarisme basé sur le mouvement évangélique fondamentaliste, c'est la même chose aux États-Unis d'ailleurs, en Chine. Je rajouterais personnellement le Myanmar, la Birmanie, où vous avez les bouddhistes cette fois qui ont failli partir avec les. Enfin, plutôt qui attaquent les musulmans, qui sont en danger. Ou alors vous avez dans les pays du nord de l'Europe une sorte d'exacerbation. Aussi du sentiment national. Hein. Vous avez l'AFD en Allemagne, hein, et vous avez l'Italie, qui sont hostiles à toute immigration, mais l'Italie, ça se comprendrait mieux, parce qu'ils ont première loge des arrivées de migrants, hein, et que on les aide pas beaucoup derrière. Alors, le problème, c'est que... vous avez aussi les religions qui viennent des structures idéologiques. Alors, je parlais du pentecôtiste, des pentecôtistes fondamentalistes, qui, par exemple, aux États-Unis, a le retour sur la légalisation de l'avortement d'un certain nombre d'États. Vous avez également aussi l'islamisme rampant qui peut expliquer un certain nombre de choses. Alors, ce qui est global, c'est qu'on constate, c'est que le passé est souvent magnifié. Hein? Et puis l'histoire, elle est carrément falsifiée au profit d'intérêts communautaires. Par exemple, c'est Gérard Noiriel, je cite juste un petit, et c'est Jacques Toubon qui cite: l'essentialisme consiste à généraliser à toute une race, une communauté, des observations qui ne valent que pour une minorité d'individus, contre le souci des faits. Hein? Alors, on voit aussi dans le passé glorifié, on voit notre ami entre guillemets Poutine, hein, et sa justification de la guerre en Ukraine par un retour sur l'histoire de l'Union soviétique. Et puis les nouvelles technologies de l'information, encore une fois, donnent une audience facile à tous ces mouvements sans concurrence de contre-vérité. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans les médias relativement peu de gens qui vont contre c'est donné. Alors, pour Jacques Toubon, le combat pour la démocratie n'est pas un combat pour l'identité. Voilà. Donc, je m'arrête là ponctuellement pour, si vous voulez débattre.